Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le Programme. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Christelle Cahana-Caillot, vous publiez aux éditions O un récit autobiographique très émouvant, très fort, très bouleversant, qui s'intitule « Je suis sortie de mon corps ». Vous y racontez en fait la sortie d'un accident de la route qui vous a plongé dans un coma profond dont vous avez, on peut je pense utiliser le mot, dont vous avez ressuscité, et vous racontez en quelque sorte cette résurrection. Parlez-moi un peu de ce que représente la lecture et l'écriture pour vous et ensuite dans la démarche qui vous a conduit à écrire ce livre. D'abord, pour vous, c'est quoi l'écriture ?
L'écriture, c'est ma passion depuis que je suis toute petite. La lecture aussi. Dès l'instant où j'ai tenu un livre entre les mains, à l'âge de 5 ans, j'ai voulu apprendre à lire et les livres n'ont pas quitté ma table de chevet lorsque j'étais petite, mon sac à dos lorsque j'allais au collège et au lycée. À chaque fois pendant la récré, j'allais m'isoler dans un coin pour lire. Et dès que je rentrais chez moi, je lisais des week-ends entiers. Ma mère me dit, je t'appelais 15 fois pour descendre à table et t'étais plongée dans ton livre. Des fois, à 3h du matin, il y avait encore la lumière et je te disais, dors. Et tu dis, non, faut que je le finisse. Et c'est ma passion, quoi.
Vous dites, il faut que je témoigne parce que j'ai quelque chose à apprendre aux autres. La mort ne fait pas mal.
Non, la mort ne fait pas mal et la mort ne fait pas peur. Et en fait, je me suis dit, personne ne connaît la mort, personne n'est passé par là. Ou alors ceux qui sont passés, ils sont pas revenus. Ou ceux qui sont revenus, ils en parlent pas. Donc je me suis dit, moi je vais en parler, je vais raconter exactement comment c'est. Et je vais raconter pourquoi il faut arrêter ce tabou de la peur de la mort. Parce qu'il y a quelque chose derrière et c'est très beau.
Non seulement vous entendez, vous percevez ce qui se passe autour de vous, vous avez un subconscient qui reste vigilant et conscient, mais en même temps, vous vous voyez sortir de votre corps.
Mais en fait, ça s'est passé en deux temps. Le premier temps, lorsque j'ai été retrouvée morte cliniquement dans le champ, j'ai été par terre ensanglantée, les vêtements tout déchirés dans le champ. Et par contre, j'étais au-dessus de mon corps avec les mêmes vêtements, mais j'avais aucune égratignure, j'allais très bien. Et je me baladais dans le champ, je disais à mes amis, mais je suis là, alors que là, j'étais morte. Et après, plus tard, lorsque je suis tombée dans le coma, lorsqu'ils m'ont ramenée à la vie et que je suis tombée dans le coma tout de suite, je me suis retrouvée dans ce tunnel. Et lorsque je sortais du tunnel, c'était pour être allongée, mais au-dessus de mon corps, en fait, en parallèle. Et des fois, par contre, je pouvais me balader dans l'hôpital aussi.
Il y a un autre élément qui est un élément extrêmement bouleversant dans votre livre, c'est dans la relation aux autres, et notamment, tout d'abord, la relation avec vos très proches, vos parents. Vous pensez à un moment donné que tous ceux qui vous entourent sont des doubles. Vous appelez votre maman, maman numéro 2, votre papa numéro 2.
En fait, je me sentais vraiment persécutée. Étant donné que j'avais perdu la mémoire, je reconnaissais personne. Et j'avais pas, mon subconscient fonctionnait comme quelqu'un de 18 ans, mais mon cerveau fonctionnait comme un bébé qui vient de naître. Donc, je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas le même langage qu'eux. Pourquoi je savais pas ce que c'était de manger, pourquoi ils mangeaient des choses avec leur bouche et moi c'était des tuyaux, pourquoi mes jambes ne fonctionnaient pas et eux ils marchaient, pourquoi je bavais et j'avais un langage guttural et ils avaient pas le même langage que moi et eux ils bavaient pas. Donc je me suis dit, on est tellement différents, là c'est mon subconscient de 18 ans qui a dû réagir, et je me suis dit, je suis sur une autre planète, c'est pas possible, j'ai été enlevée, ils m'endorment les jambes pour pas que je marche, pour pas que je me sauve, ils m'endorment la tête pour que je bave et que j'arrive pas à parler, et je me suis sentie persécutée, persuadée d'être sur une autre planète et persuadée qu'il fallait que je me sauve.
Alors, un des plus beaux cadeaux que vous faites à votre papa et à votre maman, c'est un jour, vous appelez votre papa, non plus papa numéro 2, mais papa, et de même pour votre maman. Là, ça a dû être un moment d'émotion intense.
Alors, oui, c'était intense, puisque mon père avait les larmes aux yeux lorsque je l'ai appelé papa, mais c'était en même temps qu'on me remettait mon diplôme du bac. Et donc, le professeur qui me l'a remis m'a dit à mon père, mais attendez, elle a des bons résultats, mais faut pas vous mettre dans cet état, c'est qu'un diplôme. Mais en fait, il a pas compris que j'avais appelé mon père papa parce que ma mémoire était revenue en même temps, quoi.
C'est cette volonté qui vous dit, vous avez retrouvé la conscience des choses parce que le mot bac vous disait quelque chose, mais vous ne saviez plus quoi, et vous avez voulu le passer.
Oui, parce qu'en fait, c'était pour moi la porte de sortie pour retourner sur ma planète, tout bêtement, puisque j'avais perdu la mémoire. Je ne reconnaissais pas mes parents, je ne reconnaissais pas ma maison, ni mes amis, ni les choses qui m'appartenaient, ni mes pluches. Je ne reconnaissais absolument rien et je ne savais pas qui j'étais. Mais j'avais un souvenir, c'est une phrase, je passais le bac. Alors je ne savais pas ce que c'était que de passer le bac, bien évidemment, mais je me suis dit, il faut que je sache ce que c'est que de passer le bac et il faut que je passe le bac, c'est la seule façon de retourner sur ma planète.
Votre livre est une magnifique exploration du conflit permanent que vous avez vécu entre le subconscient de quelqu'un qui avait votre âge, 18 ans, et le mental apparent que vous manifestiez, qui était celui d'un enfant de 4 ou 5 ans. Et à partir de là, le regard sur les autres était finalement un regard extrêmement perturbant pour celui qui vous lit, parce que vous aviez conscience d'avoir 18 ans, et en même temps, tout le monde se comporte avec vous comme si vous en aviez 4 ou 5.
Oui, donc ça, on m'enfantilisait sans cesse, et ça, je ne comprenais pas pourquoi, parce que dans ma tête, en fait, moi, je me voyais tout à fait normal. Déjà, je ne comprenais pas pourquoi j'étais en fauteuil roulant, mais je me voyais belle et en plus je demandais à ma petite sœur de me maquiller, donc je me voyais bien. Je ne voyais pas ce faciès handicapé sur mon visage puisque j'avais des grosses séquelles au départ et je ne me rendais pas compte que mon langage mon comportement était celui d'un enfant de 5 ans. Pour moi, j'avais l'impression de réagir normalement.
Là, on en vient à une question que je trouve essentielle dans votre démarche d'écriture, qui est celle du témoignage, mais aussi de témoigner de l'importance que peut avoir le regard des autres sur une personne handicapée. Vous racontez cette scène d'une visite chez une esthéticienne où vous avez vraiment été traité de façon ignominieuse.
Oui, parce qu'en fait, j'ai voulu me faire épiler les jambes pour pouvoir mettre une petite jupe comme toute jeune fille de 18 ans. Sauf que l'esthéticienne, lorsque je suis arrivée, ayant vu que j'étais handicapée, n'a pas pris la peine, enfin m'a épilée. Je suis rentrée chez moi, j'étais super contente. Et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'elle n'avait pas pris la peine de m'épiler les deux jambes. Elle m'avait fait une jambe sur deux et juste par endroit. Elle s'est dit que j'étais handicapée, que je bavais dans un fauteuil roulant, donc que j'allais certainement pas m'en rendre compte. Et en fait, je m'en suis rendu compte et j'ai été très très humiliée.
J'ai eu le sentiment que c'était à partir de cette humiliation-là et d'autres rapports difficiles avec le monde extérieur que vous avez entrepris une autre partie de votre vie, qui est ce combat pour réhabiliter la personne handicapée comme étant une personne sociale, comme étant une personne hors norme, mais étant une personne qui vit dans un monde dans lequel elle peut s'intégrer.
Ben en fait, c'est vrai que ça, c'est mon combat de tous les jours maintenant, parce que au sein de mon entreprise, comme au sein de la vie de tous les jours, j'essaye de me battre pour dire, attendez, on est handicapé, mais on est normaux, quoi. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit d'être beau, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit de faire les mêmes choses que les autres. Il faut juste adapter, il faut juste sensibiliser et il faut juste aider.
On va revenir à l'écriture et à la lecture et à votre passion du livre à travers une autre étape de votre parcours, c'est la dépression. Et la dépression est une attaque morale qui s'est ajoutée aux assauts que vous aviez déjà subis physiquement. Racontez-nous comment vous avez traversé cette période.
La dépression a été une des périodes les plus dures, je crois, parce que ça a duré quand même plusieurs années. Puisque j'ai eu des moments où ça allait mieux, donc c'était sous couvert, ça se voyait pas, et puis tout d'un coup, un matin, j'arrivais plus à marcher, j'avais super mal, ou alors il y avait quelque chose qui allait pas, et ça replongeait jusqu'au jour où j'ai accepté mon handicap et où j'ai été fière de mes problèmes de santé, parce que je me suis dit, ça me donne encore plus de raisons de me battre et la vie, elle est encore plus intéressante, et puis j'ai encore plus de choses à apporter aux autres, à ma famille, à mes enfants et aux autres personnes qui veulent bien s'identifier. Et en fait, c'est vrai que cette dépression a été très dure à gérer, parce que j'acceptais pas mon handicap, parce que je m'étais battue pendant des mois pour tout réapprendre, et puis que là, j'avais l'impression que tout ce que j'avais fait, je l'avais fait pour rien, que c'était un échec, et puis parce que j'arrivais pas à accepter mon handicap. Et je crois que c'est un des moments les plus durs quand on a un handicap et que on ne voit que la vie d'avant, on ne peut pas percevoir la construction d'une nouvelle vie.